Alléluia. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour cette bénédiction Seigneur. Merci pour ce cadeau de ta présence Seigneur. Merci parce que tu agis dans nos cœurs, tu agis dans nos vies. Je te prie Seigneur que nous restions en esprit connectés à toi maintenant. Je prie Seigneur que vraiment ta parole vienne toucher nos cœurs au plus profond de nos vies et fasse son œuvre, Seigneur. Nous avons tous besoin, tous ici, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta parole à différents endroits de nos vies, dans toute notre vie. Gloire à toi, ô Seigneur Jésus. Gloire à toi, ô notre Dieu, parce que tu es vivant. Vraiment que tu sois honoré, Seigneur. Que tu sois honoré ce matin. Amen. Ce matin, je voudrais continuer de parler de la paix. Je remercie encore Dora pour cette si belle introduction. La paix, le shalom de Dieu. Lorsque je faisais mes études à l'université, je me souviens d'une étudiante de ma promotion qui se disait non-croyante et à qui je témoignais de ma foi en Jésus et qui me disait, qui semblait m'envier en me disant, mais waouh, tu as résolu finalement toutes les angoisses fondamentales de l'être humain. On était en psycho. C'est-à-dire, d'où est-ce que je viens, qui est-ce que je suis, où est-ce que je vais? Alors qu'elle, elle était dans ses angoisses. Et voilà, elle voyait la paix de Dieu en moi. Cette paix fondamentale que Dieu vient mettre en nous quand on le connaît, ça se voyait. Le shalom que ceux qui sont réconciliés avec Dieu vivront pleinement à leur mort ou quand Jésus va revenir, mais que déjà, quand on connaît Dieu, nous pouvons vivre, que nous pouvons déjà expérimenter, que nous pouvons connaître. Même si ce shalom, cette paix de l'esprit, qui est reliée au fait d'avoir l'assurance du salut, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Combien il y a de chrétiens qui n'ont pas l'assurance de leur salut? Je peux vous dire qu'il y en a. Même si ce shalom n'est pas au rendez-vous, en particulier dans les relations entre les autres, dans les relations avec les autres, à commencer par l'Église. On n'est pas toujours en paix les uns avec les autres, et puis pas seulement dans l'Église, dans d'autres domaines de nos vies. Alors, comment y travailler, justement, Dora a parlé de travailler à cette paix. Comment y travailler à ce shalom? Comment travailler à cette paix? C'est le titre de ce message, travailler à la paix. Parce que nous avons tous le désir d'être en paix, déjà en soi, bien sûr, mais d'être en paix avec l'autre et d'être en paix, nous désirons la paix pour l'autre aussi, en particulier pour ceux qui nous sont chers. La Bible nous donne l'exemple de Jacob, qui a travaillé à cette paix avec son frère Ésaü, alors que celui-ci voulait le tuer. Quand Jacob revient en terre de Canaan avec ses femmes et ses enfants, il sait qu'il va se retrouver confronté à son frère. C'est en Genèse 32. Il désire la paix avec son frère, et pour les siens. Et du coup, il va mettre plusieurs choses en place. Il envoie ses serviteurs avec un message de paix vers son frère. Sauf que ses serviteurs reviennent en lui disant « Ton frère vient à ta rencontre avec 400 hommes armés. » Oups. Alors, Jacob cherche à protéger les siens en les répartissant entre deux camps, en se disant « Si l'un est attaqué, l'autre pourra s'enfuir et peut-être en réchapper. » Il adresse une prière de reconnaissance à Dieu pour son amour et sa fidélité jusque-là, tout en rappelant à Dieu qu'il lui a promis de faire de lui un peuple innombrable. Et enfin, il envoie à son frère, de manière successive, à trois reprises, un troupeau, donc trois troupeaux, en guise de présent, se disant « ça va apaiser mon frère ». En tout cas, c'est ce qu'il cherche. Donc il fait tout ce qu'il peut, tout ce qui est en son pouvoir pour apaiser son frère. Comme nous, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons, donner tous les efforts possibles pour garantir la paix entre nous, dans nos familles, au travail, dans l'église, entre nos pays, et en même temps, dans quelle mesure nos efforts peuvent garantir la paix avec l'autre. Nos efforts sont si souvent si limités et inefficaces dans bien des situations. Comment est-ce que nos efforts peuvent garantir cette paix ? Ainsi en va-t-il pour Jacob, qui, après avoir envoyé des présents à son frère, arrive en fait au bout de ses propres efforts. Il a fait tout ce qu'il peut. Et voilà ce qui se passe pour Jacob. J'aimerais prendre le chapitre 32 à partir du verset 23 jusqu'au verset 32. Je le lis dans la version de la Bible juive. Cette nuit-là, il se leva, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et traversa le Yabok Hagé. Il les prit et leur fit traverser le torrent, puis il fit passer ses biens. Et Yaakov se retrouva seul. Alors, un inconnu lutta avec lui jusqu'à l'aube. Lorsqu'il vit qu'il ne pouvait pas vaincre Yaakov, il frappa Yaakov à la jointure de sa hanche et sa hanche fut disloquée alors qu'il luttait avec lui. L'homme dit « Laisse-moi aller car l'aube se lève. » Mais Yaakov répondit « Je ne te laisserai pas aller sans que tu m'aies béni. » L'homme demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Yaakov. » Et l'homme dit « À partir de maintenant, on t'appellera plus Yaakov mais Israël. Car tu as montré ta force à Dieu et aux hommes et tu l'as emporté. » Yaakov lui demanda « Je te prie, dis-moi ton nom. » Mais il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Yaakov appela ce lieu Péniel, face de Dieu, car j'ai vu Dieu face à face, mais ma vie a été épargnée. Le soleil se levait sur lui lorsqu'il passa Péniel, boitant de la hanche. Donc, Jacob se retrouve seul. Jacob se retrouve seul face au fait que rien ne lui garantisse qu'Ésaü va lui pardonner. En fait, il se retrouve seul physiquement, mais il se retrouve seul aussi face à lui-même et face au fonctionnement qu'il a toujours eu, supplanté, trompé, manipulé, mentir, voire voler. C'est ce que signifie son nom, Jacob, le supplanteur, le trompeur. Et même si sa mère et indirectement son père ont contribué à ce qu'il se forge cette identité, bah quand même, il a délibérément trompé son père. Il a délibérément volé le droit d'aînesse de son frère, Ésaü. Il a délibérément trompé son beau-père, Laban, qui lui aussi l'a trompé. Alors, ok, il n'est pas responsable de tout, mais il est responsable de ce fonctionnement. Combien de fois nous pouvons dire, voilà, bah, je suis comme ça parce que mon père, ma mère a fait ci, a fait ça, ou les autres. Mais nous sommes responsables. Nous ne sommes pas responsables de tout, mais il y a des choses dont nous sommes responsables. Et Jacob réalise que cette fois, il ne peut plus contrôler les événements et l'autre à sa guise, comme il a toujours fait. Il se retrouve face à lui-même, ses limites, ses manques, ses manquements, son état de pécheur, sa tendance à vouloir remédier par lui-même son péché, il se retrouve face à Dieu. Avec peut-être cette question, mais au fond, c'est ça que je suis, un trompeur ? Est-ce que je ne suis que ça ? Et il se retrouve face au fait que rien ne lui garantit que tout ce qu'il a fait va apaiser Ésaü. Il se retrouve face au fait que même tout ce qu'il a fait, là-dedans s'exprime ce fonctionnement de tromperie, de supplanter. Il est toujours là-dedans. Il se retrouve face au fait que, finalement, au fond de lui, il n'est pas tant en paix que ça, que sa bataille à l'intérieur. Et comme Jacob, nous nous retrouvons de manière périodique, selon les étapes de la vie, selon ce que nous traversons, au travers de situations où la paix est compromise, où nous ne sommes pas en paix, où nous ne sommes pas il n'y a pas la paix avec les autres, nous nous retrouvons face à nous-mêmes, face à nos manques, face à nos manquements, face à Dieu et face à la nécessité d'être d'abord en paix soi-même pour être en paix avec l'autre. Nous nous retrouvons face à la nécessité de devoir être dépouillés. Et quand Jacob traverse le gué du Yabok, c'est le nom du torrent, Yabok, c'est un ruisseau qui est issu des montagnes de Galaad, qui se jette dans le Jourdain, et qui signifie « vidange ». Il y a des choses dont nous avons à être dépouillés, vidés. La paix avec l'autre dépend de la paix en soi. Et ça passe par la croix. Parce que l'expérience que Jacob fait ici, c'est celle de la croix. Jacob fait l'expérience de la croix, il se retrouve face au fait qu'avec tout son fonctionnement, il ne peut se sauver lui-même. Il ne peut se sauver lui-même. Il ne peut pas faire sa propre loi. Il dépend d'une loi beaucoup plus grande qui le dépasse. Cette loi de Dieu dont nous dépendons tous. Et il dépend, enfin, il se retrouve, il fait l'expérience de la croix et qu'il a besoin de Dieu en tant que sauveur et en tant que Seigneur. Cette expérience de la croix, c'est un combat intérieur. Un combat intérieur avec soi-même et avec Dieu. Où plein de questions peuvent venir en nous, mais quelle est ma place? Quelle est ma place dans cette vie? Et quelle est la place de Dieu? Et qu'est-ce que Dieu me veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Et je ne veux pas lâcher le contrôle. Est-ce que Dieu m'aime? Comment est-ce qu'il m'aime? Plein de questions comme ça qui peuvent nous traverser. Qui je suis? Qui je suis sans Dieu? Qui je pourrais être avec Dieu? Et il y a des choses que je ne veux pas lâcher. Et Jacob passe par cela. Il passe par ce combat. Et il ressort victorieux. Il ressort victorieux. Il lâche. Il n'est plus Jacob, le trompeur, le supplanteur. Il est Israël, celui qui a montré sa force, dit le texte, à Dieu, celui qui a combattu Dieu. Mais Jacob est victorieux d'une victoire qui n'est pas que la sienne. Cette victoire, c'est aussi celle de Dieu. En effet, Jacob déclare finalement « J'ai vu Dieu et ma vie a été épargnée », lui faisant appeler ce lieu du combat Péniel, face de Dieu. Ainsi, Jacob n'est pas seulement devenu Israël, celui qui a combattu Dieu, il est aussi devenu Israël, celui chez qui Dieu prévaut, qui est une autre signification du nom d'Israël. Dans sa vie, ce n'est plus Jacob ou Dieu, Dieu ou Jacob, c'est devenu Jacob et Dieu, Dieu et Jacob. J'ai vu Dieu et ma vie a été épargnée. C'est ce que peut dire celui qui a reçu Jésus-Christ. Et qui, c'est ce qu'il peut affirmer, sortant comme Jacob d'un moi ou Dieu, Dieu ou moi, et entrant dans un Dieu et moi, moi et Dieu. Dans un, on dirait dans un gagnant-gagnant, où le trait d'union, c'est Jésus-Christ. Parce que, vous savez, quand il y a la mort, quand il y a la conversion, c'est la victoire pour l'homme et c'est la victoire pour Dieu. Mais quand il n'y a pas la conversion, quand il y a la mort, c'est la défaite pour Dieu, c'est la défaite pour l'homme. La victoire en Dieu, elle est double. Ce n'est pas quelque chose où Dieu abdique et l'homme est triomphant. C'est une défaite, en fait. Ce n'est pas quelque chose où l'homme se met à ras de terre, se nie sa valeur et est méprisé par Dieu. Non, c'est un gagnant-gagnant avec Jésus-Christ. Quand on entre dans la vie avec Jésus-Christ, c'est un gagnant-gagnant. Et c'est cela qui nous donne la paix. C'est ça qui donne la paix en soi. Mais alors comment la maintenir, cette paix? Continuer dans cette paix. Marcher avec Dieu, c'est continuer dans ce processus de la croix qui est garant de la paix. Parce que si on regarde bien le texte, si Jacob ressort victorieux avec Dieu de ce combat, il en ressort aussi boiteux. S'il n'est plus Jacob le trompeur et qu'il est devenu Israël le vainqueur, il est aussi devenu Jacob le boiteux. C'est-à-dire, c'est une image, alors c'est pas qu'une image parce que c'est ce qui lui arrive, mais c'est une image du fait de porter sa croix. Jacob porte sa croix. Comme Christ nous invite tous. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il dise non à lui-même, et je le lis dans la version de la Bible juive, si quelqu'un veut me suivre, qu'il dise non à lui-même, qu'il porte son poteau d'exécution et qu'il me suive. Pour Jacob, porter sa croix, c'est donc mourir à soi-même, c'est accepter qu'il a été ce trompeur, que c'est à la fois le résultat de la manière dont il s'est construit, et aussi de son état de pécheur et de sa propre tendance à vouloir remédier à son péché par lui-même, que c'est qu'il peut être toujours ce trompeur, parce que ça fait partie de lui, c'est accepter finalement les manques de son être, qu'il ne peut pas être tout, qu'il ne peut pas tout faire, et qu'il peut encore être en manquement, qu'il peut encore pécher, parce que cette nature, elle est toujours là. Mais c'est aussi marcher main dans la main avec Dieu, qui vient le renouveler dans sa véritable identité, en le touchant au creux de son être, de ce qui le blesse, autant de ce qui fait qu'il est humain et non Dieu. Le creux de la hanche où Dieu frappe Jacob en le laissant boiteux, en fait, c'est une image des stigmates de Jésus, des blessures que la croix a laissées sur Jésus, qui sont toujours là, comme Jacob est boiteux. Jésus ressuscité a, pour l'éternité, les traces des clous dans ses mains. Le mot hébreu qui est traduit par creux, il signifie aussi Kaf en hébreu, paume, main. Autant la croix est une blessure pour moi, autant elle est une blessure pour Dieu. Autant la croix est souffrance et mort, autant elle est source de paix et de résurrection. Et comme Jacob, nous avons tous à porter notre propre croix. Tous. Nous sommes tous des menteurs, la Bible le dit. Nous ne sommes pas forcément tous des trompeurs, des supplanteurs, mais nous avons tous quelque chose. Moi, personnellement, ma croix, c'est d'accepter que je ne peux pas, alors que moi, je me suis construit en sauveteur. Parce que voilà, quand j'avais 2 ans et je faisais face à la dépression de mon père, il fallait bien tenir les choses. Et si je me suis construit en tant que sauveteur et que je suis devenu thérapeute et que je suis devenu pasteur, et ça, c'est beau, ben, j'ai accepté que je ne peux pas sauver tout le monde et que je me retrouve dans des situations où je voudrais, mais je ne peux pas. Des fois, je voudrais tout faire. Et parfois, du coup, je boite. Je me mets à boiter parce que je suis face à mes manques. J'ai du mal à les accepter. Et même, je suis face à mes manquements. Selon les étapes que j'ai, les étapes de ma croissance en Dieu, selon ce que je traverse dans la vie. Vous savez, notre croissance, en fait, on pourrait l'imager comme ça, comme sous la forme d'un ressort. Et on passe par les mêmes étapes. Ce sont des choses qui reviennent. Des fois, on se dit, mais j'en suis que là. Bah, encore, ça recommence. Mais en fait, on avance. On avance. Et puis, parfois, on passe par des choses et ça coince là. Ça bloque. On a du mal à passer. Et là, on n'a plus la paix. Là, on est vraiment dans la croix. Et on a à vivre des choses. On a à recevoir des révélations. On a à vivre peut-être des délivrances. À proclamer l'autorité de Jésus sur nos vies. Que des liens ont été brisés. À briser des liens. Mais on a surtout à avoir cette confiance que ce processus, il est dans les mains de Dieu. Et même si ça coince, tu avances. Tu avances. Et tu peux avoir la paix. Travailler à la paix, c'est accepter que la croix existe. C'est accepter que la croix existe. La croix qui est la réconciliation avec Dieu, en même temps qu'elle est le chemin de réconciliation avec soi et qu'elle ouvre à la réconciliation avec l'autre. Alors, pour terminer sur cette illustration de Jacob, nous voyons, après ce texte, que Jacob, enfin, est en paix avec Dieu et avec lui-même. Il est prêt pour la rencontre avec Ésaü. Spirituellement, il est prêt. Que celui-ci lui pardonne ou non, que celui-ci lui fasse grâce ou le tue. Ça ne change rien à l'état de cœur de Jacob. La suite du texte nous apprend qu'au moment où Ésaü approche, Jacob se prosterne 7 fois à terre, signe de son humilité et qu'il y a eu un véritable changement de cœur. Et là, son frère accourt, il se jette à son cou, il l'embrasse. Et les deux se mettent à pleurer dans les bras l'un de l'autre. Et ça, c'est l'œuvre de la paix de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de la croix en Jacob qui a permis cela. Jésus nous dit dans la Bible, dans la version de la Bible de Jérusalem, « Heureux ceux qui sont artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Ce qui nous vaut le nom d'enfant de Dieu, le titre d'enfant de Dieu, l'identité d'enfant de Dieu, c'est de travailler à la paix. C'est de travailler à la paix en soi, d'abord, en marchant dans ce processus de la croix, pour ouvrir à la vraie paix avec l'autre. Amen. Prions. Et Seigneur, je te remercie parce que tu nous rejoins. Tu nous rejoins là où on en est. Tu nous rejoins dans cette croix que nous avons tous à porter. Cette croix qui nous est bien propre à chacun. Et toi, tu la connais. Et Seigneur, autant toi tu as vécu la croix, bah autant tu viens nous accompagner sur ce chemin de mort à soi pour que nous puissions revivre, renaître, nous déployer en toi, étendre nos ailes, comme ça a été dit dans ce chant que nous avons chanté. Nous allons. Je voudrais que les personnes qui vont distribuer la Sainte Cène me rejoignent. Nous allons vivre la Sainte Cène en recevant cette victoire de Dieu dans nos vies. Qu'on puisse rester dans la prière. Vraiment, reste dans la présence de Dieu. Je vous remercie de briser le pain dès maintenant, de préparer le repas. Qu'on puisse chacun se placer devant Dieu. Tu sais, toi, un moment, ce qui coince dans ta vie, un moment où voilà, ça grince un peu dans les engrenages et voilà, c'est comme si tu n'arrivais plus à avancer. Et nous allons vivre le repas du Seigneur. Nous allons vivre le repas du Seigneur en signe, et ce n'est pas seulement un signe, c'est une réalité, que Jésus vient agir dans nos vies par son esprit. Il vient débloquer ce qui est à débloquer. C'est lui qui aplanit tes sentiers. Oui, Seigneur, tu es celui qui aplanit les sentiers. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment continuer de vivre ta présence. Nous te présentons nos vies. Nous voulons vivre cette paix. Peut-être que tu n'es pas en paix avec d'autres. Peut-être que tu n'es pas en paix, par exemple, dans ton couple. La paix commence par toi. La paix commence par toi. Et dans le nom de Jésus, je proclame que le Seigneur aujourd'hui veut installer cette paix en toi. Et nous allons prendre ce repas de la Cène pour recevoir cette paix. Et si tu es déjà dans cette paix, parce que tu es dans un moment où ça ne bloque pas, ça ne coince pas, et va que tu peux recevoir plus encore de cette paix, pour être toi un artisan de paix, appelé fils de Dieu, fille de Dieu. Seigneur, je te remercie pour ton corps qui est représenté par ce pain, ce corps qui a été brisé. Ce sont les traces, les coups que nos péchés ont laissés, que tout ce que l'on essaye de faire par nos propres forces a laissé sur ta vie. Tout ça, ça a été pris dans tes meurtrissures. Toutes nos difficultés, ça a été pris dans tes meurtrissures. Et je te remercie, Seigneur, parce que ouais, tu viens nous dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucune blessure, il n'y a aucun manquement, il n'y a aucune chose, aucune difficulté que tu n'aies pris dans tes meurtrissures. Et je bénis ce pain en ton nom. Je le sanctifie en ton nom. Et Seigneur, je bénis ce breuvage, ce jus de raisin qui représente ton sang. Je te remercie pour ce sang qui vient laver nos péchés, qui vient nous purifier, qui vient nous donner ton identité, qui vient nous renouveler, qui vient nous donner la victoire sur toutes ces choses où ça peut bloquer, où ça peut coincer. Et Seigneur, oui, je sanctifie ce breuvage en ton nom. Merci maintenant, Seigneur, d'agir, de continuer d'agir dans nos vies et de venir toucher, de venir débloquer ce qui a besoin d'être débloqué. Que mes amis, que vous puissiez aller distribuer maintenant le repas. Je prie dans le nom de Jésus maintenant que ce qui est verrouillé dans ta vie soit déverrouillé. Je prie que, si peut-être il y a des choses, ces verrous, c'est peut-être des choses aussi délicates, hein, que tout simplement tu reçoives la lumière de Christ sur ces verrous qui vient éclairer la manière dont ça peut s'ouvrir. Et peut-être que il y a des verrous que le Seigneur veut aujourd'hui ouvrir directement. Alors dans le nom de Jésus maintenant, que les liens qui étaient là cèdent. Dans le nom de Jésus, que ce que la manière dont le diable a œuvré soit mise en lumière et que ça cède. Merci Seigneur pour ta lumière qui dissipe les ténèbres. Maintenant que nous recevions tout simplement l'œuvre du Seigneur là dans nos vies, maintenant. Reçois cette paix. Reçois cette paix. Reçois ce qui va te donner de travailler à cette paix. Nous sommes tous ensemble et le Seigneur est avec toi. Il est avec toi sur le chemin. Il y a peut-être des moments où c'est compliqué, mais Dieu est avec toi sur le chemin. Il t'aide à faire les pas. Il t'aide à avancer. Même si toi, tu as le sentiment peut-être que ça n'avance pas. Dieu est là. Dieu est là. Il te conduit. Il a vraiment les choses dans sa main. Alléluia. Merci Seigneur.